Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Monsieur Jean-Robert Pitt, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien président de l'Université Paris-Sorbonne, aujourd'hui délégué à l'information et à l'orientation auprès du Premier ministre. Monsieur Pitt, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes agrégé de géographie et docteur de cette discipline. Vous êtes aussi doctoresse lettres. Vous avez été président de l'Université Paris 4 Sorbonne, dans laquelle vous avez enseigné la géographie, et vous en aviez été également le vice-président. En 1981, vous avez créé l'Université Interâge de Paris Sorbonne. Donc vous avez présidé cette Université Paris 4 Sorbonne de 2003 à 2008, ainsi que Paris-Sorbonne Abu Dhabi de 2006 à 2008. Vous avez été élu le 3 mars 2008 à l'Académie des sciences morales et politiques dans la section Histoire et géographie au fauteuil de Pierre Georges. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de géographie et de gastronomie, l'une de vos spécialités, ouvrage auquel Canal Académie a consacré plusieurs émissions que nos auditeurs peuvent retrouver sur notre site. Après la crise du CPE, contrat première embauche, donc en 2006, vous avez écrit un pamphlet remarqué, « Jeunes, on vous ment, reconstruire l'université ». Puis en 2007, « Stop à l'arnaque du bac, plaidoyer pour un bac utile ». Et ces deux ouvrages ont fait débat. Vous avez été nommé en juin 2010, délégué à l'information et à l'orientation auprès du Premier ministre. Et dans ce cadre, vous avez coordonné un ouvrage intitulé « Orientation pour tous, bien se former et s'épanouir dans son métier », publié donc récemment en octobre 2011 par les éditions François Bourin. Vous avez aussi remis récemment un rapport au Premier ministre. Ce rapport dresse un bilan du travail réalisé par votre délégation depuis un an et suggère des actions possibles pour une meilleure orientation professionnelle. Votre ouvrage « Orientation pour tous » offre des clés pour mieux comprendre les enjeux de l'orientation professionnelle tout au long de la vie. C'est aussi un guide pratique très concret sur l'orientation et la formation en vue de la meilleure insertion professionnelle possible. Il comporte notamment, et je le signale à nos auditeurs, des informations précieuses sur les services d'information et d'orientation ouverts au public. Ce livre s'adresse à tous les publics, les jeunes et leurs parents, les éducateurs, les professionnels de l'orientation, les responsables des ressources humaines, des entreprises et des administrations, et comme vous l'écrivez, à tous les citoyens désireux de voir notre pays sortir de ses échecs scolaires et professionnels. Monsieur Pitt, avant d'aborder l'ensemble des questions contenues dans cet ouvrage, je souhaitais vous demander quelle est la mission du délégué à l'information et à l'orientation auprès du Premier ministre. Que pouvez-vous nous en dire et quels sont les objectifs contenus dans la lettre de mission du Premier ministre?
Vaste programme. Ce que je dirais d'abord, c'est que si j'ai été nommé à cette fonction en juin 2010, c'était un peu à la suite des deux petits pamphlets que j'avais écrits où l'on m'a dit, puisque vous critiquez le système actuel de formation, d'orientation, de sélection par l'échec, de baccalauréat un peu passoire, qui est celui de notre pays, allez-y, prenez en charge cette nouvelle fonction qui a été créée par la loi en novembre 2009, c'est la loi sur l'orientation et la formation tout au long de la vie, qui crée la fonction de DIO, de délégué à l'information et à l'orientation, rattachant cette fonction au Premier ministre, et qui a pour but, et à 5 ministres de tutelle en réalité, chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et on m'a dit, donc voilà, il s'agit d'essayer de coordonner l'ensemble de la politique d'orientation dans notre pays, tout au long de la vie. Jusqu'à maintenant, on a créé de multiples organismes au fur et à mesure des besoins, au fur et à mesure des rapports commandés aux uns et aux autres, et du constat que, en France, l'orientation ne marche pas. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes ne trouvent pas leur voie. Il y a un taux de décrochage élevé aussi bien au collège, au lycée que dans l'enseignement supérieur. Beaucoup d'adultes ne sont pas très heureux dans leur travail, c'est plus de 50%. Il y a donc un véritable problème dans notre pays qui est sans doute une des causes de la crise. Ce n'est pas la seule, bien entendu, mais incontestablement, le fait qu'un certain nombre de gens formés longuement, je ne dis pas bien formés, mais formés longuement, ne trouvent pas un emploi à leur mesure et à leur goût, le fait qu'un certain nombre de métiers ne trouvent pas preneur aujourd'hui, il y a des emplois dans un certain nombre de branches professionnelles qui ne trouvent pas preneur, eh bien, c'est tout simplement un manque d'information, un manque de transparence, un manque de clarté pour les usagers. Et il y a énormément d'organismes. Il y a en France 8500 lieux d'accueil autour de l'orientation. Donc on m'a dit, eh bien voilà, essayez de coordonner tout cela, de créer un service dématérialisé, un bon site internet complet, efficace, un numéro de téléphone unique, gratuit, qui permette à tout le monde d'avoir un premier niveau d'information et d'orientation, et ensuite essayer de coordonner à l'échelle locale les différents services, donc qui sont des services d'information et d'orientation rattachés à l'éducation nationale, des missions locales, des lieux destinés à des fonds GESIF, destinés à parler du congé individuel de formation, des maisons de l'emploi et de la formation, etc. Il y en a des quantités. Tout cela est un labyrinthe, comme dans beaucoup de domaines en France, et donc l'idée est d'inviter tous ces organismes, à l'échelle locale, à l'échelle des bassins de vie, à se coordonner, à travailler ensemble et à accueillir tout public pour que les gens soient mieux informés, qu'il y ait plus de transparence dans ce monde de la formation et surtout dans un but précis qui est une meilleure insertion professionnelle dans des métiers qui correspondent aux attentes de nos compatriotes.
Vous dressez dans l'introduction de votre livre donc un diagnostic très critique sur la situation de la société française. Vous venez à l'instant de l'évoquer, mais j'avais noté chômage des jeunes, illettrisme, sélection par l'échec, insatisfaction et pessimisme grandissant des jeunes, comme le montrent certaines enquêtes, vous citez des statistiques. Pourquoi une telle crise est-elle due à des spécificités françaises, notamment dans le domaine de l'éducation et de l'orientation ?
Mais oui, bien sûr qu'il y a une spécificité française et qui, moi, me chagrine depuis très très longtemps, depuis 1968, lorsque j'étais étudiant. C'est ce système qui se refuse à prononcer le mot de sélection dans la formation initiale, mais qui en réalité l'accepte pour former l'élite. C'est-à-dire que pour rentrer à l'école normale supérieure, à l'ENA, à Polytechnique, ou même dans une école de commerce ou une école d'ingénieur, même de niveau moyen, il y a une sélection sur dossier, sur examen, sur concours. Et donc pour former les cadres de la France, il y a une sélection. Et je dirais que nous avons plutôt des bons cadres dans notre pays. Sinon, on ne pourrait pas comprendre que nous soyons une très grande puissance économique mondiale et que nous comptions dans beaucoup de domaines dans le monde. En revanche, pour tout ce qui est de niveau moins qualifié, eh bien là, il n'y a pas de sélection. Et on dit, on se cache derrière un argument très fort, il faut donner sa chance à tout le monde. Par conséquent, on ne fait pas de sélection, on donne le bac à tout le monde, on permet à tout le monde d'entrer à l'université, quelle que soit la formation initiale, la motivation, les goûts et les capacités des jeunes. Et on croit leur faire plaisir, on croit être gentil avec eux, et on n'est pas gentil. Donc, comme on ne peut pas aujourd'hui, parce qu'il faudrait des lois qui n'existent pas, revenir sur ce choix français qui pour moi est un mauvais choix, eh bien la seule solution, et c'est pourquoi j'ai accepté cette fonction, c'est d'essayer de mettre à disposition des jeunes et des moins jeunes le maximum d'informations pour que les gens se forment réellement et que tout le monde arrive à trouver un métier correspondant à ses capacités et à ses goûts, plutôt que de dire « on va vous aider à avoir un diplôme et si vous n'y arrivez pas, on vous le donnera quand même ». Ce qui est une absurdité totale. Nous avons une espèce de « nous vivons en France dans le mythe du diplôme ». Ce qui n'est pas vrai en Allemagne, ce qui n'est pas vrai en Suisse, ce qui n'est pas vrai en Angleterre, ce qui n'est pas vrai dans beaucoup de pays du monde. Il y a plein de pays dans lesquels il y a un taux de chômage moins élevé et où on n'a pas ce mythe absolu du diplôme.
Ce culte du diplôme.
Ce culte du diplôme et où en France, on n'accepte pas très bien non plus l'idée qu'on se forme tout au long de sa vie, qu'on se forme sur le tas. On est très en retard par rapport à beaucoup de nos voisins sur l'apprentissage. L'apprentissage est fondamental aussi.
Quels sont les objectifs de la réforme de l'orientation mise en œuvre par la loi que vous avez évoquée du 24 novembre 2009 qui a créé la fonction et la mission de DIO ? Quelle est la philosophie de cette loi et quelles sont les principales dispositions de cette loi ?
Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure peut-être trop brièvement, mais vous avez à la fois une coordination encouragée des différents services de l'État qui s'occupent d'information, mais localement, dans les régions, à l'échelle des bassins d'emploi ou des bassins de vie, en coopération, en coordination avec beaucoup d'associations, type mission locale par exemple, et avec les collectivités territoriales, surtout les régions qui ont dans leur mission l'orientation. Donc ces organismes qui, à l'échelle locale, acceptent de travailler ensemble, passent une convention, présentent un dossier et reçoivent un label qui s'appelle « Orientation pour tous ». Et que nous allons promouvoir très rapidement dans les jours qui viennent. Et par ailleurs, donc, le deuxième volet de ma mission, c'est d'essayer de coordonner et d'améliorer le service dématérialisé, site internet, parce qu'il y a beaucoup de sites internet aujourd'hui. Donc, s'ouvre un grand site internet que tout le monde peut consulter, www.orientation-pour-tous.fr, qui permet d'ores et déjà, donc, de se repérer dans ce maquis extraordinaire des formations tout au long de la vie qui existent, initiales ou continues, dans tous les organismes français. Et puis, à côté de cela, un numéro de téléphone donc, qui est gratuit lui aussi et qui permet donc de se repérer, d'avoir un premier niveau d'orientation.
Donc, il s'agit de simplifier le système et de le rendre plus accessible. Vous avez cité 8500 lieux d'accueil du public. Vous venez de le rappeler et je m'en étais étonnée en lisant votre livre. Mais pourquoi le système d'orientation en France est-il au fond si complexe et si confus pour les usagers? Et évidemment, c'est très difficile pour chacun de s'y retrouver.
C'est très simple, c'est que nous sommes dans un pays où quand il y a un problème, on s'en aperçoit, parfois avec retard, mais on s'en aperçoit. Et donc, on crée tout de suite un remède, une structure. C'est un peu comme si on allait voir, en fonction des maladies que l'on a, une vingtaine de spécialistes et qu'à chaque fois, le spécialiste donne des médicaments, mais sans s'occuper de savoir ce que les autres ont donné. On sait bien que ça peut être dangereux d'avoir un excès de médicaments et qu'il vaut mieux avoir un bon généraliste compétent qui coordonne un peu toute cette politique de soins. Mais là, c'est pareil. On a accumulé les structures, les organismes, les financements de partout. Et le résultat, c'est que personne n'y comprend plus rien. C'est un labyrinthe. Mais on a la même chose dans bien d'autres domaines de la société française. Et là, c'est un grand mal français. Et je pense que ça tient au fait aussi que nous sommes un pays de vieille tradition jacobine, centralisée, en tout cas centralisatrice, avec un fort rôle de l'État, que depuis 1982-83, il y a eu des lois de décentralisation, que les collectivités territoriales ont pris des initiatives, qu'on leur a donner un certain nombre de missions, mais qu'en même temps, on n'a pas complètement retiré les missions de l'État. Et qu'à côté de tout cela, eh bien, nous sommes dans un pays où, depuis 1901, on a une loi sur les associations et se créent tous les jours les associations qui font face à tel ou tel problème. Par exemple, l'illettrisme, qui est un des vrais gros problèmes français. Il y a beaucoup d'associations, heureusement, mais je pense que c'est pas très bon d'avoir une politique en ordre dispersé pour faire face à tous ces problèmes.
Et c'est vrai que dans votre rapport, j'ai vu aussi un schéma qui montre la superposition de tous ces réseaux, réseaux CIDJ, UNICEF, etc.
Tout le monde se marche sur les pieds.
C'est vraiment très complexe.
Tout le monde se marche sur les pieds. Une chatte n'y retrouve pas ses petits.
Absolument, absolument. Alors, l'objectif du label Orientation pour tous, prévu par la loi que vous venez d'évoquer, doit permettre, à votre avis, de remédier à cette complexité, à cette confusion?
En tout cas, c'est l'objectif. C'est la mission qui m'a été confiée. C'est ce que le législateur a voulu, puisque c'est prévu dans la loi du 26 novembre 2009. Donc, on espère que les choses vont s'arranger. Mais vous savez, ce n'est pas très, très facile. Même si les procédures que nous avons mises au point depuis 2 ans ne sont pas si compliquées que cela, beaucoup d'organismes ont tendance à vouloir eux-mêmes compliquer, demandent à être guidés, avoir des protocoles pré-rédigés. Je pense que c'est pas bon. Il faut laisser l'initiative locale. La situation de l'orientation en Bretagne n'est pas la même qu'à la Martinique, n'est pas la même qu'en Aquitaine. Donc, il faut respecter aussi les cultures locales, culture politique, culture éducative locale. L'Alsace et la Corse, c'est très, très, très différent en matière d'orientation et de formation. Nos compatriotes ne se ressemblent pas tous. Donc, nous avons voulu permettre justement une diversité. Et puis, ce que je dirais aussi, c'est que beaucoup d'organismes ont une longue expérience dans ce domaine et ont des personnels qui sont encadrés par des statuts, sont dans des structures et ont un peu de mal à penser que ça va leur faire du bien de travailler avec d'autres. Et tout mon travail actuellement est d'essayer, donc je parcours la France et je vais convaincre les acteurs locaux qu'ils ont tout à gagner à travailler avec d'autres sur ces sujets.
Donc un travail de conviction. Vous pensez que cette démarche de labellisation pourra aboutir prochainement?
La Cité des métiers de Marseille a déjà reçu son label. C'est le préfet de région qui accorde le label, donc c'est fait. Et puis, il y a beaucoup de dossiers en cours d'examen dans plein de régions françaises. Je pense à la Bretagne, à Rhône-Alpes, en Ile-de-France. Il y a un certain nombre de dossiers qui avancent bien dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, il y a quand même dans l'ensemble, même s'il y a quelques résistances ou réticences, dans l'ensemble, il y a tout de même un bon accueil à cette possibilité. Et je crois que les gens comprennent. Mais c'est toujours pareil en France. On pense qu'on est autosuffisant, qu'on n'a pas besoin des autres. Et sur un sujet comme ça, au contraire, pour être plus concret, parce que là, ça a l'air d'être moi qui baigne dedans, j'explique peut-être mal les choses, mais il y a ceux qui connaissent très très bien les structures de formation, il y a ceux qui connaissent très très bien les métiers, l'insertion professionnelle, type Pôle emploi par exemple, les chambres des métiers, les chambres de commerce et d'industrie, mais ces gens-là ne travaillent pas ensemble. Donc le fait de se concerter, de se voir, d'échanger les pratiques, de voir quelles sont les questions que posent les usagers, va leur faire beaucoup de bien, j'en suis persuadé, et certains, heureusement, beaucoup l'ont déjà compris.
Donc l'objectif, c'est un rapprochement, c'est que chacun se parle et c'est
voilà,
d'établir des coopérations.
Oui, voilà.
Et au fond, de rendre visible, grâce à ce beau label que nos auditeurs pourront découvrir sur notre site, rouge, bleu
et blanc,
avec un système de flèches. Donc donner une visibilité et au fond,
oui.
J'imagine que vous édictez quelques normes pour les organismes.
Oui, il y a des normes. La loi de 2009 a été suivie d'un décret, d'un arrêté d'application paru en mai 2011 et qui donne les conditions de la labellisation, mais qui sont des conditions que tout le monde peut remplir. Et ce que nous avons voulu, parce que la loi parlait de lieu unique, c'est de ne pas contraindre les organismes, dans un premier temps, à se mettre tous ensemble sous le même toit. Parce qu'il nous a semblé que si on interprétait la loi de cette façon-là, rien ne se ferait. Parce qu'il faut des locaux, ça va beaucoup plus loin si on se met sous le même toit. Donc, dans un premier temps, nous avons pensé qu'on pouvait accepter que les gens d'un même bassin de vie, donc travaillant à proximité les uns des autres, passent une convention ensemble, acceptent de travailler ensemble et acceptent surtout de recevoir, s'il y a le logo orientation pour tous, tout public pour un premier niveau d'information et d'orientation. Et ensuite, eh bien, on envoie l'usager vers l'organisme le mieux à même de le renseigner et de l'accompagner dans son orientation. J'en profite pour dire qu'on n'oriente pas les gens. Ça, c'est un mythe. On aide les gens tout au long de leur vie, y compris les jeunes, y compris les collégiens, les lycéens, à s'orienter.
On les conseille.
Eux-mêmes. On les conseille, on les aide, on les appuie, on les accompagne, on leur donne l'information nécessaire et la plus personnalisée possible. D'où l'importance aussi de faire baigner les jeunes dans un milieu qui ne soit pas uniquement d'apprentissage scolaire, mais aussi de réflexion sur leur avenir, mais aussi de réflexion sur les branches professionnelles et sur les métiers. Et heureusement, ça correspond à une réforme du lycée qui est la mise en place des parcours de découverte des métiers et des formations. Ça correspond aussi à l'implication souhaitée de plus en plus grande des professeurs des collèges et des lycées dans les démarches d'orientation, en accompagnement du travail magnifique que font beaucoup de conseillers d'orientation psychologues. Et les universités, du fait de la réforme de 2007, sont elles aussi dans une démarche très innovante autour de l'insertion professionnelle. Il ne faut pas oublier que ça fait partie maintenant, d'après la loi, des missions des universités que d'aider leurs étudiants, non seulement à être diplômés, à être compétents, mais à s'insérer professionnellement. Et donc moi j'espère qu'à terme, tout cela va pas contraindre, mais va pousser des établissements autonomes que sont les universités, et peut-être un jour les lycées, qui vont probablement dans les années qui viennent avoir plus d'autonomie, à avoir des projets d'établissement fondés sur le désir d'aider leurs élèves ou leurs étudiants à s'insérer professionnellement, à avoir des projets métiers, et donc à faire rentrer le monde de la vie professionnelle au sein de l'établissement, à ne pas vivre dans une bulle éducation nationale, de même que les entreprises ne doivent pas vivre non plus dans une bulle, elles doivent jouer leur rôle pour dire au monde éducatif ce dont elles ont besoin, en sachant qu'on ne va pas former pour un petit métier à court terme. Il faut que ce dialogue s'établisse, et c'est tout le travail qui est en cours, et je me réjouis que les esprits soient en train de bouger.
Oui, c'est absolument nécessaire, puisque jusqu'à présent, ce sont deux mondes clos, comme vous le disiez, deux mondes qui s'ignoraient, qui ne se parlaient.
Oui, il faut pas caricaturer. Il y a déjà du dialogue qui a lieu. Je veux dire, tout ce qui est lycée technique, lycée professionnel, formation professionnalisante de l'enseignement supérieur, école de commerce, école d'ingénieur, master pro des universités, tout ce monde-là est déjà très fortement lié au milieu professionnel. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de formations généralistes où là, il y a un très gros effort à faire. Moi, qui ai présidé une université littéraire, je peux vous dire que parler de professionnalisation, c'est pas très facile vis-à-vis des collègues et même vis-à-vis des étudiants. Or, c'est nécessaire, indispensable.
En lettres et en sciences humaines, effectivement, jusqu'à présent, il y avait peu de relations, mais également entre les lycées généraux, d'enseignement généraux, et le monde de l'entreprise ou même de l'administration.
Mais là encore, on tombe sur ce problème. Dans un lycée général, celui qui est du niveau de la mention bien ou très bien au baccalauréat, même s'il n'a pas de projet professionnel, c'est pas grave. Enfin, c'est pas très grave. Il va s'en tirer. Mais celui qui est du niveau de la mention passable, qui est à peine au niveau de la réussite au baccalauréat, en bac général, qu'est-ce qu'il devient après? Comment il fait son choix? Et n'oubliez pas une chose grave, c'est que du fait de la non-sélection à l'entrée de l'université, vous avez un certain nombre d'élèves qui sortent de bac pro ou de bac technologique, qui ne trouvent pas de place dans des BTS ou dans des IUT, et qui par conséquent vont à l'université alors qu'ils vont à l'échec manifestement. Ils ne sont pas faits pour ça. Enfin, ils sont pas faits. Ils n'ont pas été formés pour ça. Et donc, ça, c'est l'une des causes majeures du décrochage dans les universités.
Que préconisez-vous pour remédier au décrochage scolaire qui est, selon vous, un phénomène mondial qui préoccupe tous les gouvernements ? Alors, ce décrochage scolaire, je pensais d'abord au décrochage au collège et au lycée, mais il existe aussi à l'université, bien sûr. Que préconisez-vous pour
Ce que je préconise, c'est que déjà, il faut être un peu mieux assuré que les jeunes étudient dans la structure qui leur convient. Et la structure qui leur convient, c'est celle qui correspond à leur capacité et à leur goût à un âge donné. On n'est pas sur des rails définitivement. On peut évoluer. Quand on est adolescent, eh bien, psychologiquement, on évolue. On peut être moyen ou mauvais au collège et se réveiller au lycée, etc. Tout est possible. Donc, il faut accompagner individuellement, personnellement, les jeunes. Et ce que je préconise, c'est aussi d'accorder une bien plus grande place à l'apprentissage. Nous sommes un des pays les plus en retard de ce point de vue-là et c'est un des très bons moyens d'apprendre et ensuite de s'insérer professionnellement. Quand on a appris son métier en partie sur les bancs d'une classe, enfin, ou d'un établissement d'enseignement, et en partie dans une entreprise avec un patron ou un encadrement, on est beaucoup plus à même. En général, ceux qui passent des diplômes en alternance par apprentissage restent presque toujours dans l'entreprise qui les a accueillis. Et on est à peu près certain là qu'on a des gens bien formés, souples et mieux à même après le moment venu dans leur vie de créer leur propre entreprise. On a peur en France de la création d'entreprise. Il y a plein de pays comme les États-Unis où les jeunes créent des entreprises. Il y a plein de pays type l'Allemagne, par exemple, l'Autriche, la Suisse, la Scandinavie, où on apprend énormément par apprentissage et par alternance. En France, il y a une certaine réticence. Il faut faire des stages, moi je suis très favorable au travail des étudiants. Je sais que certains syndicats d'étudiants sont très contre, mais je trouve que c'est excellent de travailler un jour, deux jours par semaine, pas uniquement pour payer ses études, mais aussi pour apprendre la vraie vie. Il y a des pays dans lesquels, comme la plupart des pays anglo-saxons où les études sont très chères, où les étudiants travaillent une partie de leur temps et je peux vous assurer que ça leur donne un sens des réalités que beaucoup de nos étudiants français n'ont pas.
Comment atteindre cet objectif de faire en sorte que l'alternance dans l'enseignement supérieur se développe ? Parce qu'elle existe, je pense, dans tout ce qui est BTS, DUT, enseignement technologique, et aussi sans doute dans les écoles de commerce et d'ingénieurs.
Oui, mais pas assez, il faut le développer.
Mais comment faire pour que ça se développe aussi dans les universités de lettres, de sciences humaines, de droit,
etc. Je pense que ça viendra. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y en a eu deux depuis 2007, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, ne cesse de répéter que nous allons vers une évaluation des universités sur le critère de l'insertion professionnelle de leurs étudiants. Bon, le jour où ce sera réellement rentré dans les habitudes, je pense que les universités auront sauté un grand pas et qu'elles imagineront d'infléchir un certain nombre de leurs formations, et en particulier de créer davantage de formations professionnalisantes. Et je dirais, s'il y a des universitaires qui nous écoutent, que ça n'est en rien une dégradation de l'enseignement supérieur. On peut être au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche et en plus savoir que ces connaissances que l'on diffuse auprès et que l'on transmet à des jeunes doivent servir dans leur vie professionnelle. Alors que là, on les laisse un peu désemparés. On leur fait, je vais prendre des exemples qui concernent les disciplines que je connais le mieux, on leur fait de la philosophie grecque, de la linguistique latine, de l'histoire médiévale, mais on ne leur apprend pas, on ne leur donne pas le réflexe de dire, vous savez, ce que vous apprenez, ça va vous servir dans la vie professionnelle. Il y a trop peu de collègues, il y en a quelques-uns en philosophie, par exemple, qui réfléchissent au lien entre philosophie, et ce sont de très grands philosophes, et éthique nécessaire dans les cabinets d'avocats, dans la médecine, dans l'industrie pharmaceutique ou ailleurs, dans l'industrie nucléaire, où on a besoin de réfléchir à ce que l'on fait, pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan éthique. Et là, je trouve que les philosophes qui acceptent de sauter le pas et de remplir ces fonctions, donc de travailler dans une DRH, par exemple, ou dans un cabinet auprès d'un président d'entreprise, c'est extrêmement utile. Ça se fait couramment en Angleterre, par exemple. On fait de la philo à Oxford et on se retrouve dans un cabinet d'avocats.
Ou du grec.
Ou du grec, ce qui est formidable de faire du grec parce que ça donne une forme d'esprit. Mais ce qu'il faut, c'est apprendre à transposer tout ce qu'on a appris, l'agilité intellectuelle que l'on a acquise au cours de ces formations, de l'appliquer à la vie réelle et aux attentes de la société. Sinon, ce qui est malheureusement un peu trop été le cas, et j'en suis un vivant exemple, c'est que on forme des profs. Les profs forment des profs, cherchent parmi leurs étudiants quels sont ceux qui pourront devenir leurs successeurs, font faire des thèses, et puis voilà, se contentent de cela. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Oui,
je ne dis pas qu'il ne faut pas former de profs, il en faut, hein, et de
mais,
très bons.
Oui, mais ça ne permet pas suffisamment de débouchés pour tous
évidemment.
Les étudiants.
Et, donc,
de
et puis moi, j'aimerais que les professeurs,
les
professeurs de collège, de lycée et d'université soient en même temps, au cours de leur formation, confrontés à la vie réelle, à la vie de l'entreprise, à la vie de la fonction publique. Et ça, c'est indispensable, je trouve.
Monsieur Pitt, nous allons marquer une courte pause et nous reprendrons cette émission dans quelques minutes. Nous sommes à Canal Académie avec monsieur Jean-Robert Pitt, délégué à l'information et à l'orientation auprès du Premier ministre, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur Pitt, que pensez-vous de la loi dite Liberté et responsabilité des universités, loi LRU, qui a été votée en 2007 ? Permet-elle, à votre avis, d'améliorer l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, qui est le vœu que vous exprimez dans votre ouvrage et dans votre rapport?
Oui, je pense que cette loi va vraiment dans le bon sens, qu'elle donne plus d'autonomie aux établissements, qu'elle leur donne des responsabilités par rapport à leurs étudiants, qu'elle les invite à préparer les lycéens, les futurs bacheliers, à venir chez elles, mais en expliquant bien ce qu'ils vont trouver et ce qui les attend, et en les mettant face à leurs responsabilités, en n'essayant pas de faire du chiffre, c'est-à-dire d'avoir le plus d'étudiants possible, mais d'avoir des étudiants motivés et à même de réussir. Donc, ça implique de très bien réussir ce qu'on appelle l'admission post-bac, et il faut que les universités participent à ce travail qui est effectué dans le cadre des lycées, et les universités doivent y participer. Et elles doivent aussi, ça fait partie des missions de la loi LRU, mettre en œuvre vraiment un lien fort avec le monde professionnel, de façon à ce que leurs étudiants aient connaissance tout au long de leurs études de ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent s'insérer, une fois diplômés, dans la vie professionnelle. Donc il faut qu'elles développent un service des stages, un service de l'insertion professionnelle, un service de lien avec les entreprises, par exemple par le biais de la formation continue. Les universités peuvent faire beaucoup mieux que ce qu'elles font dans ce domaine-là, et rentrer en contact, dans le cadre de la labellisation Orientation pour tous, travailler avec les autres organismes d'orientation à l'échelle locale. Et je suis très heureux de voir que beaucoup d'universités y croient et font des efforts en ce sens-là. Ça prend, comme toujours, hein, c'est une telle réforme par rapport à ce qui existait auparavant que ça va prendre encore des années avant d'être totalement satisfaisant. Mais on va vraiment dans la bonne direction en ce moment en France.
Oui, je crois effectivement que cette loi est un succès, va dans le bon sens. J'ai eu un certain nombre de conversations avec d'autres présidents d'université et c'est le sentiment que j'en retire.
Il y a des résistances, il y a des réticences, il y a des blocages même, sur le plan financier, c'est pas très simple, mais tout ça, c'est la responsabilisation. Vous savez, la fonction publique française n'a pas été habituée à être responsabilisée. Nous sommes dans un système très hiérarchique où on obéit à son supérieur hiérarchique, point. Et quand on n'a pas assez de moyens, eh bien, on se pète, on descend dans la rue et on essaye d'obtenir ses moyens. Ou on fait antichambre auprès d'un directeur. Lorsque j'étais président d'université, j'ai fait antichambre auprès du directeur des enseignements supérieurs plusieurs fois pour avoir des rallonges budgétaires, des postes que je tenais parfois un tout petit peu, parfois pas du tout. Je trouve que c'est un peu dégradant. Donc maintenant, nous allons vers une beaucoup plus grande autonomie, ce qui n'est pas simple à gérer, d'autant plus qu'on est en période de restrictions budgétaires, donc il faut être imaginatif, il faut faire mieux avec moins d'argent. Enfin, pas moins d'argent, mais il faut trouver l'argent là où il est. Et plus les universités rendront des services à la société et au monde de l'emploi en général, plus elles trouveront de moyens et plus elles diversifieront leurs ressources.
Vous avez évoqué à l'instant l'admission post-bac, qui est une procédure qui est mise en place donc par les lycées, je crois. C'est l'un des temps forts de l'orientation scolaire, mais il y en a d'autres. Il y en a, je crois, en troisième, peut-être même en cinquième. Quels sont les temps forts et quand doit-on commencer cette démarche d'orientation des élèves?
Je vais vous répondre par une boutade.
Est-ce que c'est par de l'information sur les métiers? Est-ce que c'est par...
Je vais répondre par une boutade. Il faut commencer à la maternelle. C'est-à-dire qu'on demande souvent aux petits-enfants qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Donc souvent, ils répondent, voilà, je veux être pompier pour les garçons, je veux être maîtresse pour les filles, parce que le métier a encore bonne presse pour les tout-petits. Bon, je crois que ce n'est pas une mauvaise question à poser constamment aux enfants, non pas pour les angoisser, mais pour leur dire, sois toujours dans une démarche de projet. qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Bon, aujourd'hui, tu as ce rêve-là, tu as ce désir-là. Eh bien, on va t'expliquer, tu vas toi-même chercher de la documentation, tu vas aller t'informer, tu vas participer à un certain nombre d'animations organisées, soit dans le cadre de l'établissement, soit dans d'autres cadres. Il y a plein de lieux où on peut trouver de l'information sur les métiers. Mais ça, c'est maintenant entrer dans ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé dans les lycées. Ça prend le nom de parcours de découverte des métiers et des formations. Donc il y a, en plus, ça existe depuis longtemps, une semaine de découverte professionnelle en classe de 3e. Moi, j'aimerais qu'il y en ait davantage. Et il faut surtout que ces parcours de découverte des métiers et des formations soient réellement très bien conçus dans l'établissement, en coopération entre la direction de l'établissement, l'ensemble du corps professoral, les conseillers d'orientation psychologue, les parents et le tissu économique local. Et à partir du moment où les gens travaillent ensemble, ce qui se passe d'ailleurs dans pas mal d'établissements privés où ça se passe bien de cette manière-là, il faut que ce soit généralisé dans l'ensemble du service public de l'éducation. Donc, il faut mettre les élèves dans une démarche de projet, ce qui est le meilleur moyen pour les motiver pour leurs études. Parce que s'ils n'aiment pas les mathématiques, mais qu'ils ont envie de faire un métier pour lequel on a besoin de mathématiques, et qu'ils s'en rendent compte, peut-être que ça va les pousser à aimer les mathématiques et à faire un effort réel, motivé, dans ce domaine-là. Donc, je trouve qu'il y a malheureusement beaucoup d'apprentissages scolaires qui sont déconnectés de l'utilité. Et les élèves ont beaucoup de mal à voir que ça pourra leur servir dans la vie. Les langues, par exemple, on peut ne pas être très doué en grammaire ou avoir du mal à acquérir l'accent anglais. Et pourtant, si on découvre assez vite que pour faire le métier dont on rêve, on a besoin de parler parfaitement l'anglais, bien, ça motive très sérieusement. Hein, très, très sérieusement. Donc, tout ça, c'est un peu un renversement de cette... Bon, il y a la boutade, c'est « passe ton bac d'abord ». Non, aie d'abord un projet professionnel et tu vas choisir le bac qui convient pour le mettre en œuvre. Et donc, les grands moments de l'orientation, c'est bien entendu le passage du collège au lycée, puis on va sortir très vite du collège unique, c'est l'évidence même. Et ensuite, au lycée, c'est le choix, classe de seconde, lycée professionnel, lycée technique, c'est très important. Et il faut réhabiliter ces formations professionnelles et technologiques qui ont mauvaise presse par rapport aux filières générales et qui sont magnifiques, qui sont des filières pour lesquelles il y a des débouchés et qui doivent être réhabilitées auprès des jeunes. Il y a des métiers, je vais prendre deux exemples, de deux filières larges, métiers du bâtiment, métiers de bouche en général, y compris hôtellerie-restauration, qui n'ont pas toujours très bonne presse auprès des jeunes et qui sont pourtant des ensembles de métiers absolument passionnants où on peut gagner de l'argent, où on peut créer son entreprise, où on peut travailler à l'étranger et où on peut s'épanouir. C'est ça qui est important, c'est de viser quelque chose que l'on va aimer et un métier dans lequel on va s'épanouir. Et c'est tout ça que le collège et le lycée doivent apprendre aux jeunes. Et bien entendu, à plus forte raison, les établissements d'enseignement supérieur, puisque là, on se rapproche de l'insertion professionnelle.
Cela suppose que les enseignants, notamment au collège et au lycée, revoient un petit peu leurs fonctions sous l'angle de l'orientation.
Évidemment.
Et ça change peut-être un peu le métier. Y sont-ils préparés ? Peut-être moins que les conseillers d'orientation. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas des sensibilisations, des formations à leur apporter pour
Il y a beaucoup de choses à faire, évidemment, qu'il faut faire évoluer rapidement. La formation des professeurs qui ne peuvent pas être uniquement des spécialistes d'une discipline et uniquement aptes à transmettre la connaissance et à noter les élèves entre 0 et 20. C'est absurde. D'ailleurs, un bon prof n'est pas ça. Un bon professeur, c'est aussi quelqu'un qui connaît ses élèves et qui les accompagne, y compris dans leur vie personnelle. Et pareil dans l'enseignement supérieur. Au Japon, par exemple, vous passez un concours pour entrer dans les universités, et il y a toute une hiérarchie d'universités, et après, une fois que vous êtes entré, vous avez choisi, etc., une fois que vous êtes entré, vous passez des tests pour choisir un tuteur. Et certains tuteurs très réputés dans les grandes universités japonaises veulent un petit nombre d'étudiants parce qu'ils les suivent non seulement jusqu'à leur insertion professionnelle, mais tout au long de leur vie. Et au Japon, le maître, c'est quelqu'un que l'on respecte beaucoup, mais qui joue une fonction éminente d'accompagnement, y compris dans la carrière, pour les changements professionnels. Donc je pense que les annuaires d'anciens aussi sont très importants dans les établissements professionnalisants et dans les universités. Ça existe dans les écoles d'ingénieurs et de commerce. Ça n'existe pas à l'université. C'est idiot, on se prive de quelque chose de très, très utile. Donc, bien entendu que l'ensemble des enseignants... Mais vous savez, ça s'apprend sur le tas, ça aussi. Un enseignant qui s'investit, quel que soit son niveau, qui s'investit dans les stages, dans ses parcours de découverte des métiers et des formations ou dans le montage d'un master professionnel à l'université, eh bien, il découvre sur le tas combien c'est utile pour ses étudiants. Et donc, lui aussi, ça le motive. Et il sait très bien qu'il enrichit son profil au lieu de l'appauvrir. Alors, ça prend du temps, ça, c'est sûr.
En tant que délégué à l'information et à l'orientation, vous représentez la France dans le réseau européen pour les politiques d'orientation tout au long de la vie. Pensez-vous que la coopération et la coordination de ces politiques, donc au niveau européen, est suffisante ? Est-ce qu'il faut la renforcer ?
Je pense qu'il faut la renforcer. Ça marche déjà bien. Il y a un réseau européen qui marche bien. J'étais encore récemment à Toulouse pour participer à un grand colloque sur les portefeuilles de compétences. Donc, ils sont une nouvelle manière pour un étudiant concerné à l'enseignement supérieur de préparer son CV, si vous voulez, mais un CV qui n'est pas uniquement une énumération de choses, mais qui est riche de toute la personnalité de l'étudiant. Donc ça, ce sont des choses qui sont dans l'air et nous avons, nous, Français, beaucoup à apprendre des étrangers. En particulier parce que je crois qu'il y a plus de souplesse chez un certain nombre de nos voisins européens. Donc ce réseau européen peut jouer un rôle vraiment important. Il faut regarder dans l'assiette du voisin. Il faut voir ce que font les autres et prendre ce qu'il y a de bon. Et je pense que d'autres pays pourront apprendre des choses en France aussi.
Quelles sont les bonnes pratiques dont nous pourrions nous inspirer ? On parle souvent de l'Allemagne pour l'alternance, peut-être de l'Angleterre pour ce qui est des réseaux Internet et de l'utilisation du numérique.
Oui, je pense qu'il faut regarder tout cela de très très près. La mise en place du service dématérialisé d'orientation pour tous en France va nous rapprocher effectivement des systèmes anglais, irlandais, écossais, gallois aussi, qui a des nuances et qui sont assez performants et qui en tout cas qui associent très clairement formation initiale et monde professionnel, information sur les métiers. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en cours et qui sont très très positives. Donc je pense que la France est dans le bon chemin. Notre situation est différente aussi sur l'alternance. C'était pas complètement dans la culture. Il faut se rappeler du contexte historique, c'est que on a supprimé les corporations en France à la Révolution. D'une certaine manière, bon, elles étaient sans doute un peu sclérosées, mais d'une certaine manière, on le paye aujourd'hui parce que ça n'a pas très très bonne presse, l'apprentissage tout au long de la vie. Donc le petit livre que nous avons publié, Orientation pour tous, on a volontairement décidé de faire verser les droits aux compagnons du Tour de France et du Devoir parce qu'il nous a semblé que c'était une association qui fait un très bon travail justement d'apprentissage en alternance de véritables métiers et dont tous les anciens sont enthousiasmés évidemment. Et là, le réseau est très très fort parce qu'il y a des liens qui ne sont pas uniquement des liens techniques mais aussi affectifs. Et je crois que c'est ça dont on a besoin. L'éducation est un petit peu trop technique en France, la formation tout au long de la vie aussi. Il faut qu'on soit dans cette idée de transmission et dans transmission, il y a quelque chose qui relève de l'affectif.
Ces bonnes pratiques que nous évoquons, elles existent bien sûr au-delà de l'Europe. Vous avez parlé du Japon, on peut sans doute citer aussi les États-Unis,
Israël,
le Canada,
qui est un pays très intéressant en matière de relations entre la formation et l'insertion professionnelle.
Donc, il y a peut-être un observatoire de ce qui se passe à l'étranger à mettre en place
pour repérer ces
bonnes pratiques.
Je crois ne créons pas un organisme de plus. Nous essayons de regarder un peu ce qui se passe à l'étranger. Nous participons à un certain nombre d'actions et une partie de notre mission, c'est d'essayer justement de faire connaître ces bonnes pratiques et de dire, n'ayez pas peur, allez-y, évoluez dans votre culture.
En conclusion, en tout cas provisoire pour aujourd'hui, je vous demanderai, Monsieur Pitt, quels sont vos chantiers prioritaires dans les mois à venir ?
Le chantier prioritaire, c'est d'essayer de favoriser la labellisation orientation pour tous à l'échelle des territoires de vie. Et donc, je travaille en étroite coopération avec les services de l'État en région, donc qui sont les secrétariats généraux des préfectures de région, aux affaires régionales, qui sont les directs, direction de l'emploi, etc., et du travail, qui sont les rectorats, qui sont les pôles emploi, et puis un certain nombre d'organismes qui sont associatifs ou qui dépendent des régions ou qui sont à cheval sur l'État, sur divers financements, tels que les missions locales, et qui travaillent très 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 bien, et pour les inciter à se coordonner à l'échelle locale. Et donc, je vais continuer à prendre mon bâton de pèlerin et à favoriser la prise de mayonnaise, si je puis dire, à l'échelle des territoires de vie.
Monsieur Jean-Robert Pitt, merci pour ces précisions et cet éclairage sur la stratégie et la politique publique de l'orientation pour tous. Je rappelle à nos auditeurs et je leur conseille de lire cet excellent ouvrage « Orientation pour tous, bien se former et s'épanouir » dans son métier, sous la direction de Jean-Robert Pitt, aux éditions François Bourin.
Merci beaucoup.
Merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission.